Les cours du Collège de France, Samantha Besson, chaire droit international des institutions.
Mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir pour moi de ce matin de vous accueillir ici au Collège de France pour cette cinquième leçon du cours Le droit international des régions. Je salue tout particulièrement les lycéennes et les lycéens qui sont ici ce matin et je leur souhaite bon courage. Alors la leçon du jour, vous le voyez à l'écran, est intitulée « L'Union européenne, enfin une organisation régionale parmi d'autres ». Comme vous vous en souvenez peut-être si vous avez suivi le cours jusqu'ici, ce cours, à l'image de son titre « Le droit international des régions », est structuré en deux parties. Et la leçon de ce matin étant l'avant-dernière leçon est la deuxième de deux leçons de la deuxième partie du cours consacré à la question institutionnelle et donc au droit international des régions stricto sensu. Alors la semaine dernière, j'ai défendu la réinstitution des organisations régionales en une troisième forme politique, en un troisième type d'institution du droit international public qui serait plus à même, je vous l'ai dit, d'instituer les communautés géopolitiques régionales qui sont aujourd'hui écartelées. Écartelées en effet parce qu'elles ne trouvent pas leur place dans l'opposition binaire du droit international des institutions entre d'une part les États, qui sont aujourd'hui encore considérés comme les seules organisations politiques et territoriales, et d'autre part les organisations internationales qui sont considérées comme purement techniques et fonctionnelles. Et cette troisième institution du droit international que j'ai proposée la semaine dernière pour instituer les communautés géopolitiques très particulières que sont les organisations régionales, c'est ce que j'ai appelé la Confédération régionale. Alors, comme vous vous en souvenez certainement, mon argument pour la Confédération régionale était un argument républicain fondé sur l'égalité souveraine des peuples, des États des différentes régions du monde. Il s'agit en effet, dans cet argument, d'étendre la protection du droit international des institutions contre la domination de ces peuples par l'impérialisme régional, soit des États-empires, comme la Chine, la Russie ou les États-Unis, soit par ce que j'ai appelé des organisations régionales-empires, derrière lesquelles ces États-empires se cachent, comme la Shanghai Cooperation Organization, l'Union économique eurasiatique ou encore l'OTAN. Si l'État a été pensé puis institué dès le XVIIIe siècle contre l'Empire, comme la forme politique qui permettrait l'institution des peuples en plusieurs États égaux en droit international, et c'est ce qu'a confirmé l'article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies, les faiblesses contemporaines de l'État doivent nous amener à penser et instituer une institution et une forme politique supplémentaire de ces mêmes peuples, toujours contre l'impérialisme. Cette fois-ci, ce sont les confédérations régionales qu'il faudrait instituer autour des États pour mieux protéger l'égalité souveraine de leurs peuples. Et la proposition que j'ai articulée d'une nouvelle institution régionale de droit international s'insère donc dans la continuité de la protection de l'égalité tant des peuples que de la personne humaine de la Charte des Nations Unies. Et dès lors, cette proposition que je vous ai faite est une proposition de réforme et de reconstruction plutôt que de révolution de l'ordre institutionnel international. Alors dans la leçon de ce matin, j'aimerais poursuivre cet argument en le développant pour une organisation régionale en particulier, l'Union européenne, l'UE. Cette leçon va me donner l'occasion de revenir sur la région qui, je vous l'ai dit lors de la première leçon, a universalisé son droit international régional en droit international universel dès le XIXe siècle. Cette région, c'est l'Europe. Je vous expliquerai comment les organisations régionales européennes se sont développées très intensément après 1945 et après la mise en place des institutions internationales universelles, prenant une nouvelle fois de l'avance sur les autres régions. De l'avance, cette fois-ci, non plus seulement sur un plan juridique, en continuant à développer le droit international universel depuis l'Europe, mais aussi, et c'est ça qui va m'intéresser, sur un plan institutionnel. Et c'est notamment dans le cadre de l'Union européenne que ce développement régional s'est approfondi jusqu'à devenir le seul exemple aujourd'hui d'une organisation internationale considérée comme supranationale, j'y reviendrai, ou comme intégrée, j'y reviendrai aussi. En se décrivant elle-même comme un ordre juridique nouveau, l'Union européenne s'est constituée toute seule une position d'organisation sui generis, d'un genre nouveau, échappant ainsi au droit international des institutions et à la comparaison avec d'autres organisations régionales, sauf à en devenir le modèle. Ce faisant, l'Union s'est octroyée des privilèges qu'aucune organisation internationale ne s'était encore octroyée jusqu'ici, bénéficiant indirectement aux plus puissants de ses États membres, eux-mêmes d'ailleurs, et on l'oublie souvent, d'anciens empires européens. Contrairement à ce que l'on fait habituellement dans la littérature sur la question, j'ai décidé ce matin d'inverser l'ordre des questions dans le débat. En effet, j'ai opté pour ne pas commencer par une étude de la forme politique fédérale de l'Union la semaine dernière, pour l'étendre ensuite ce matin aux autres organisations régionales par transposition. Je n'ai pas non plus choisi la voie de la critique de cette approche eurocentriste, une critique tout aussi commune désormais dans la littérature. En effet, cette critique eurocentriste de l'Union européenne comme modèle finit elle aussi toujours par séparer entièrement l'Union européenne des autres organisations régionales, entretenant ainsi savamment la posture de repli exceptionnaliste du droit international des institutions qu'a adoptée l'Union européenne par la voix de ses institutions et notamment par celle de la Cour de justice de l'Union. Cette approche critique, qui saisit l'Union européenne non pas comme un modèle mais comme une exception, ne permet donc ni comparaison ni traitement commun des organisations régionales en droit international. Au contraire de ces deux approches, l'approche et la position que je vais défendre dans cette leçon essaient de s'extraire de cette opposition stérile entre l'Union comme modèle d'une part et l'Union comme exception d'autre part, qui domine tous les débats sur la question. Je considère en effet que l'Union devrait se réinstituer, elle aussi, en confédération régionale. Et ce, vous l'avez vu dans mon titre, non pas pour devenir comme les autres organisations régionales et perdre toutes ses spécificités, ni pour faire perdre ses spécificités aux autres d'ailleurs, mais au moins pour devenir l'une parmi elles, pour des raisons précisément d'égalité des peuples du monde et de leurs régions dans l'ordre institutionnel international. Alors quelques mots d'introduction vont me permettre de vous expliquer pourquoi j'ai choisi de défendre cet argument et surtout comment. Comme je vous l'ai expliqué dans la première leçon, et je vous remontre ici le tableau qui retrace, le panorama qui retrace l'apparition des différentes organisations régionales dans le monde depuis 2 siècles. Comme je vous l'avais expliqué, les premières organisations régionales à apparaître auront été latino-américaines et arabes au XIXe siècle, se renforçant ensuite au début du XXe siècle. Elles n'étaient pas européennes. Les puissances européennes de l'époque, en effet, sont restées organisées durant longtemps sous la forme impériale, jusqu'à l'entre-deux-guerres, voire même, pour certaines, jusqu'en 1945. Une fois la Charte des Nations Unies et le nouvel ordre international des États en place, dès 1945, et cet ordre sonnant le glas des empires, différentes organisations européennes se sont toutefois très rapidement consolidées autour des États européens d'après-guerre, et ce, dès les années 50. Et vous le voyez très bien sur ce tableau. Voici ici la liste des principales organisations régionales que nous avons travaillées depuis le début du cours. Je vous ai mis en gras ici les organisations européennes. Alors c'est le cas du Conseil de l'Europe en 1950, puis de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1952, les Communautés économiques européennes en 1957, qui deviendront la Communauté européenne tout court en 1991, puis seront fondues entièrement dans l'Union européenne en 2009. Vous avez ici un schéma que j'utilise avec mes étudiants. On voit très bien les premières communautés qui ensuite deviennent les communautés européennes en une seule et qui ensuite deviennent, une fois fondues dans l'Union européenne, l'Union européenne. Ça, ce sont, comme mes assistants me le disent souvent, des connaissances de L3, donc je ne vous donnerai pas trop de détails sur ces questions, mais je vous renvoie à des livres qui sont très bien faits sur ce développement historique. La plus aboutie de ces organisations régionales d'Europe est sans conteste l'Union européenne. Que ce soit du point de vue de la généralité de ses compétences, y compris d'adopter et de développer du droit international, nous le verrons, que de la profondeur de son intégration politique et de son assise territoriale. En fait, l'Union européenne est l'organisation régionale par laquelle les États européens ont intégré et mis en œuvre l'égalité des peuples de la Charte des Nations Unies, et ce tant à l'intérieur sous la forme d'une contrainte égalitaire et antinationaliste dans les relations internes aux États membres, qu'à l'extérieur sous la forme d'une contrainte égalitaire et anti-impérialiste dans les relations des États membres entre eux. Ce qui en fait ce qu'on appelle quelquefois un microcosme du droit international. Surtout, l'Union européenne est sans conteste l'organisation régionale qui a été la plus influente dans le développement du droit international depuis 1945, s'engageant non seulement à le respecter sur le plan interne et dans ses relations externes, mais aussi en se donnant les moyens de contribuer à son développement au sein des organisations universelles. Et ici, je vous montre deux articles du traité sur l'Union européenne, l'article 3.5, qui parle des relations de l'Union européenne avec le reste du monde, et vous voyez que cet article rappelle que l'Union européenne est tenue au strict respect et au développement du droit international dans ses relations avec le reste du monde. Et on retrouve cette idée de cohérence entre l'extérieur et l'intérieur et de respect du droit international à l'article 21.1 et 21.3 du traité sur l'Union européenne. Donc c'est tout à fait particulier et propre à l'Union européenne, ce lien qui est fait assez immédiatement avec le droit international. Une fois de plus, dès lors, et si vous repensez à tout ce que je vous ai dit de l'histoire de la place des régions en droit international lors de la première leçon, il semblerait que l'Europe impose son avance régionale au reste du monde. Les empires et puissances européennes l'ont fait une première fois sur le plan juridique en universalisant par la contrainte le droit public européen dès le XIXe siècle, mais désormais l'Union européenne continue à le faire continue à le faire sur le plan juridique en influençant le droit international universel, mais elle le fait aussi sur le plan institutionnel puisqu'elle s'octroie des privilèges de participation au développement du droit international universel dans différentes organisations universelles en raison de sa forme d'organisation régionale sans précédent. Par leur organisation propre, les États européens se sont donc positionnés à nouveau comme s'ils étaient les garants d'un ordre international universel, mais cette fois-ci, ils le font beaucoup plus discrètement que la première fois, en se cachant derrière l'Union européenne. En fait, ces privilèges que s'octroient l'Union européenne et les États membres se retrouvent à deux niveaux de son action extérieure, celle de l'Union toute seule et celle des États membres. D'une part, en effet, l'organisation institutionnelle de l'Union européenne lui permet d'être très active sur le plan international. Elle pèse de tout son poids, plus lourdement que toutes les autres organisations régionales, sur l'adoption du droit international universel, notamment aux Nations Unies et à la Commission du droit international, nous le verrons tout à l'heure. Mais d'autre part, le positionnement spécifique de l'Union sur le plan international a permis aussi aux États membres les plus puissants de l'Union européenne, comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni avant le Brexit, de continuer à peser de tout le poids qui était le leur avant l'intégration européenne, mais cette fois-ci au travers de l'Union européenne, plus lourdement que les autres États européens, mais aussi que les États des autres régions du monde sur l'adoption du droit international. Comme au XIXe siècle, lors du développement des autres droits internationaux régionaux, notamment latino-américains puis africains, contre la transformation du droit public européen en droit international universel, la réaction des autres organisations internationales régionales face à ces privilèges de l'Union européenne et de ses États membres n'a pas tardé. Et comme au XIXe siècle, cette réaction des autres organisations régionales a été ambivalente. Elle tangue, comme au XIXe siècle, entre volonté de reconnaissance, moi aussi je veux, et d'émancipation, moi aussi je peux et je peux mieux. Certaines organisations régionales ont cherché à émuler l'Union européenne comme un modèle, c'est le cas du Mercosur, tandis que d'autres organisations régionales comme l'Union africaine ont résisté au modèle européen, dénonçant son eurocentrisme comme une nouvelle imposition impérialiste et néocoloniale. Ayant en apparence appris des erreurs liées à la mission civilisatrice du passé, la réponse de l'Union européenne et de ses organes, dont la Commission et la Cour de justice de l'Union, a été très vite de souligner le caractère sui generis, de genre propre, et la nature juridique et politique spécifique de l'Union européenne. Donc ça, c'est un discours qui est très rodé, qu'on va retrouver dans toute la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union. Ici, vous avez un extrait d'un des avis les plus symboliques sur la question. Non seulement l'Union européenne ne serait-elle pas un État, selon les critères du droit international coutumier, vous connaissez la chanson, il lui manquerait une population, une nationalité européenne, son territoire est en constante expansion au fil des élargissements, et enfin son gouvernement effectif serait incomplet en tant que la mise en œuvre du droit de l'Union est assurée par les États membres. Mais, nous dit-elle, l'Union européenne ne serait pas seulement une organisation internationale non plus. Elle est organisée politiquement et démocratiquement avec des citoyens, un parlement. Elle dispose d'une véritable cour qui exerce une juridiction obligatoire sur l'Union européenne et ses États membres. Et enfin, l'Union européenne prend ses décisions à la majorité qualifiée au sein de ses différents organes exécutifs et législatifs. Elle dispose en outre d'une assise territoriale qui ne se réduit pas à la somme des territoires de ses États membres. Et enfin, l'Union se présente désormais régulièrement comme souveraine dans son droit dérivé. Les juristes européanistes parmi vous connaissent bien cette ambivalence et cette discussion. Au vu de ce que nous avons vu au fil des dernières leçons, toutefois, ce qui frappe, c'est que l'Union ne serait pas très différente de toutes les autres organisations régionales. Elles aussi souffrent d'une incapacité à être classées dans l'opposition binaire État-organisation internationale. Après tout, comme je l'ai expliqué, c'est le propre de la dimension géopolitique, et donc à la fois territoriale, géo, et politique, dans géopolitique, tout à fait unique des organisations régionales, que de n'entrer ni bien dans la catégorie État, ni dans la catégorie apolitique des organisations internationales techniques et fonctionnelles. Mais le caractère sui generis et la nature politique spécifique de l'Union européenne que réclame la Cour de justice de l'Union va plus loin. Selon la conception de la Cour de justice de l'Union, l'Union serait aussi une organisation régionale spécifique, à part même de toute autre organisation internationale régionale, et qui ne serait donc pas comme les autres et ne pourrait pas fonctionner comme un modèle pour elle. Selon la Cour de justice de l'Union, en effet, l'Union serait un nouvel ordre juridique tout court qui ne relèverait même plus du droit international, contrairement à ce qu'elle avait dit quelques années auparavant. Donc elle parlait auparavant d'un nouvel ordre juridique de droit international, et là vous voyez, dès 1991, elle parle d'un nouvel ordre juridique tout court. L'Union européenne s'autodéfinit donc par la Cour de justice de l'Union depuis toujours, et il faut le souligner, elle se situe dès lors hors du droit international des institutions. Elle le fait clairement sans égard pour son égalité aux autres ordres juridiques et à leurs différentes formes reconnues par le droit international. Et pourquoi cela? Pourquoi? Parce que, nous disent les enfants. Eh bien, cela tiendrait, nous dit la Cour de justice de manière tout aussi tautologique, à son autonomie, tant du droit interne de ses États membres que du droit international lui-même. Et vous avez ici un autre extrait de cet avis qui vous donne ce type d'explication. D'une part, la Cour nous dit-elle, le droit de l'Union impose le monisme et ordonne sa validité immédiate dans les ordres juridiques internes des États membres, sans qu'il soit nécessaire de le mettre en œuvre par le biais d'actes de droit interne. C'est ce que la Cour entend par intégration du droit de l'Union au droit interne. Je vous mets ici un extrait sur l'intégration. D'autre part, nous dit la Cour, le droit de l'Union prime l'ensemble du droit national, y compris le droit constitutionnel national. Et ce, non pas en vertu du droit international ou du droit constitutionnel national, comme ce qui est le cas dans les relations entre droit international et droit national habituellement, mais de son propre droit. Et c'est aussi ce qu'il faut entendre par son caractère supranational, dans la mesure où les décisions de ces institutions se prennent à la majorité et non pas à l'unanimité, et que leur autorité prétend donc primer celle des institutions nationales. Alors, dans le paysage institutionnel international, l'Union est donc habituellement mise en avant comme étant la seule organisation régionale à présenter ces trois caractéristiques, autonomie, intégration et supranationalité, ce qui est très habile parce que cela rend ensuite toute comparaison impossible par rapport aux autres organisations régionales et place donc l'Union européenne dans une catégorie à part. En fait, le positionnement sui generis de l'Union européenne en droit international des institutions se traduit jusque dans les termes qui sont utilisés lorsqu'elle intervient diplomatiquement au sein d'instances universelles, par exemple aux Nations Unies. L'Union européenne va se présenter parfois comme une organisation d'intégration économique régionale, dénomination qu'elle est toutefois la seule à utiliser. C'est ce positionnement exceptionnaliste ou de surplomb de la part de l'Union européenne au sein du paysage institutionnel international, y compris interrégional, que j'aimerais critiquer dans cette leçon. Il me semble en effet qu'il n'est pas très différent de celui du droit public européen du XIXe siècle et de son positionnement à l'époque comme étant le seul droit international régional civilisé. Alors certes, le positionnement sui generis de l'Union européenne en tant qu'organisation régionale particulière, spécifique, se veut en apparence comme un positionnement d'anti-modèle et donc de refus de l'émulation du modèle européen par d'autres organisations régionales. Il ne se positionne donc pas, c'est vrai, en droit de civilisation institutionnelle. Mais dans les faits, les privilèges que ce positionnement assure à l'Union européenne créent nécessairement une volonté d'émulation de la part des autres. Surtout, ces privilèges rendent le positionnement de repli de l'Union européenne sur ses acquis institutionnels, notamment sur le plan des relations extérieures de l'Union et de ses États membres, particulièrement suspect. Son absence de volonté d'institutionnalisation commune et égalitaire des organisations régionales en droit international et de positionnement de l'Union comme d'une forme politique égale à d'autres au sein de cet ordre droit international dénote, à mon avis, d'un manque de respect de l'égalité des peuples des autres régions du monde. Et c'est d'ailleurs ce dédain des autres organisations régionales et de leurs peuples que l'on peut déceler dans la description de l'Union européenne par la Cour de justice comme un nouvel ordre juridique qui ne relèverait même plus du droit international, qui s'en affranchirait et n'aurait donc pas à trouver sa place dans l'ordre institutionnel international à égalité avec les organisations régionales des autres peuples du monde. En réaction, je défendrai une interprétation au nom du respect de l'égalité de ces autres peuples, précisément, qui vise à traiter l'Union européenne comme une organisation régionale, non pas comme les autres, mais parmi d'autres. Et cela devrait passer par sa réinstitution comme confédération régionale. Il s'agira ensuite, sur cette base, d'étendre aux autres organisations régionales les privilèges que l'Union européenne s'est arrogés au sein des organisations universelles, non plus comme des privilèges cette fois-ci, mais sous la forme de droits de participation à part entière. Alors attention, il ne s'agit pas de modeler cette confédération régionale sur le modèle du quasi-fédéralisme que certains attribuent parfois à l'Union. Au contraire, comme je l'ai dit à plusieurs reprises déjà dans ce cours, le droit institutionnel commun aux organisations régionales doit être développé depuis leurs pratiques respectives et à égalité, en recherchant partout l'unité dans la diversité et surtout sans essayer de supprimer cette diversité organisationnelle. C'est ce qu'explique bien Alison Duxbury dans son article de 2024 que j'ai déjà cité, lorsqu'elle nous dit que la personnalité et l'autonomie juridique des autres organisations régionales existent déjà, y compris en Asie, qu'elles peuvent être considérées comme données, pour autant que nous cessions de les évaluer uniquement par référence aux spécificités organisationnelles de l'Union européenne en droit de l'Union. Dans tous les cas, comme nous le verrons, la forme de fédéralisme d'organisation qui est souvent attribuée à l'Union européenne est prise dès lors à tort comme un modèle pour les autres organisations régionales, ne correspond pas du tout à une forme politique à part entière, comme je l'entends ici par confédération régionale. En effet, même si cela peut vous surprendre, et comme je vous l'expliquerai, L'Union européenne n'a jamais vraiment choisi la forme politique fédérale pour elle-même. Et surtout, elle ne l'a jamais vraiment choisi contre la forme politique de l'Empire, qui était celle de ses États membres les plus puissants avant 1945. En fait, c'est bien pire que cela. L'Union, par son positionnement institutionnel spécifique et sans précédent, qu'elle ne cesse de proclamer et d'exercer. Tant au dedans, dans ses relations aux États membres, qu'au dehors, dans ses relations aux États tiers, a réussi à se positionner, elle et ses États membres d'ailleurs, comme l'aurait fait un empire si cette forme politique existait encore en droit international, en s'autorisant à elle-même ce qu'elle a interdit à ses propres États membres de faire, puisqu'elle impose un cadre égalitaire à leurs relations entre États membres ou à leurs relations avec des États tiers. De fait, en l'absence de cadre institutionnel international commun et égalitaire dans lequel l'Union européenne pourrait s'inscrire, et en raison surtout de son manque d'efforts pour en créer un, l'Union européenne s'est installée dans une position que l'on peut décrire d'impérialiste. Il est temps que cela change, et ce, dans l'intérêt de l'égalité des autres peuples du monde et des régions de ces peuples, je l'ai dit, mais aussi dans l'intérêt de l'Union européenne elle-même et de ses peuples, dans notre intérêt à nous, nous autres Européens. Le retour de bâton, le backlash, comme on dit en anglais, est là. C'est le cas dans les relations entre l'Union européenne et ses États membres, comme en témoigne le retour en force du principe de l'égalité des États dans le traité de Lisbonne en 2009, que l'on doit lire comme un signe de la gêne d'une bonne partie des États membres de l'Union. Mais c'est aussi le cas dans les relations entre l'Union ou ses États membres avec des États tiers, comme le révèlent désormais les demandes de réparation pour la colonisation, mais aussi toutes les demandes d'égalité de traitement des autres organisations régionales au sein d'organisations universelles. Il me paraît donc qu'il est aussi dans l'intérêt de l'Union européenne en tant que puissance d'abord juridique, plutôt que seulement économique ou militaire, d'œuvrer à la préservation de l'ordre institutionnel international et de l'égalité des peuples sur laquelle elle s'est après tout construite. Et cela requiert de s'intéresser enfin aux autres peuples et à leurs organisations régionales, et à construire main dans la main avec eux un ordre institutionnel international. Alors, dans un contexte de menaces politiques, militaires, économiques sans précédent sur l'Europe, y compris l'Union européenne, ma critique peut vous paraître ce matin comme étant à contre-emploi des besoins de l'Union européenne et de ses peuples. Mais c'est bien le contraire, et je vais essayer de vous le démontrer. Si je développe cet argument, c'est précisément parce qu'il me semble que la réponse à l'impérialisme d'États-empires, voire d'organisations-empires, n'est précisément pas de développer des politiques impérialistes de l'Union, même des politiques impérialistes à visée anti-impérialiste, contre-impérialiste ou post-impérialiste, comme nous le disait par exemple Manuel Barroso il y a de cela de nombreuses années, ici dans un article du Monde de 2005. Et ce type d'argument, l'Union européenne peut se permettre d'être impérialiste parce qu'elle a un agenda anti-impérialiste. On va le retrouver chez des auteurs tout à fait sérieux, comme notamment Timothy Garton Ash en 2023. Alors pourquoi est-ce que je m'insurge contre ce type de lecture ou de proposition ? Bien, tout simplement parce que ce cours est un cours de droit. C'est un cours de droit international et non pas de relations internationales. À ce titre, il ne vise pas simplement à décrire ou à prédire les relations internationales de manière réaliste, mais bien à les interpréter, à les justifier, et quand cela ne peut pas être le cas comme ici, à prescrire pour réformer ces relations. Alors bien sûr, la question de la faisabilité de la réforme égalitaire que je vais vous proposer doit se poser, même pour les juristes. Le monde des 193 États membres des Nations Unies d'aujourd'hui n'est plus le monde de la poignée de puissances européennes qui a permis à la forme politique de l'État d'être instituée contre l'Empire entre les 18e et les 20e siècles. Mais à la différence de cette époque, les États sont institués aujourd'hui. Ils existent en droit international et leur égalité souveraine est garantie par la Charte des Nations Unies, je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Il s'agit donc, de manière un petit peu plus facile pour nous que pour nos prédécesseurs, de poursuivre une construction institutionnelle qui existe et qui nous oblige pour davantage de protection de l'égalité des peuples, cette fois en instituant une nouvelle institution, la Confédération régionale. D'ailleurs, les organisations régionales que l'on réinstituerait en confédération régionale, elles existent, je l'ai dit, partout dans le monde. Elles existent avec des compétences générales partout dans le monde. Et elles existent de manière intégrée, pour certaines, partout dans le monde. Et la menace que posent les États-empires et les organisations empires est la même pour tous les peuples de toutes ces régions. Alors, curieusement, la question des rapports de l'Union aux autres organisations régionales sur le plan international, et dès lors la question de ce qui devrait être sa forme politique à partager avec ces autres organisations, n'est que peu traitée dans la littérature spécialisée, et je fais mon mea culpa parce que je fais partie de ces littératures, qui préfère se concentrer sur des questions purement internes à l'Union européenne, comme celle de son organisation politique, ou de son régime politique, comme si d'ailleurs les questions internes à l'organisation politique de l'Union ou à son régime politique pouvaient être traitées avec succès, sans clarté, sur la question de sa forme politique. Et cela tient d'une part à ce que Signe Relling-Larsson a très bien capturé, à mon avis, lorsqu'elle parle d'amnésie des juristes européanistes sur l'histoire de l'Europe, en droit international en général, et donc l'amnésie qu'ils ont choisi d'entretenir sur ses origines impériales. Nous, européanistes, avons choisi de traiter de l'Union, d'enseigner de l'Union, comme d'une institution nouvelle, un OPNI, un objet politique non identifié, dit-on parfois à nos étudiants, comme si c'était amusant et rassurant pour nous, les citoyens de l'Union, de ne pas savoir ce qu'est l'Union. Nous avons choisi de la traiter comme une institution nouvelle, sans relation au passé impérial des puissances européennes devenues États membres de l'Union dès les années 50. Et nous nous concentrons ensuite surtout sur les rapports institutionnels internes à l'Union, entre l'Union et ses États membres, ou au sein de l'Union. Et cela vaut d'ailleurs aussi pour les juristes spécialistes des relations extérieures de l'Union, dont je fais partie aussi malheureusement, parce que je fais aussi mon mea culpa sur ça, qui se concentre surtout sur les rapports entre l'Union et ses États membres lorsque ou l'Union ou les États membres ou et l'Union et les États membres appliquent ou adoptent du droit international ou agissent sur le plan international. Mais d'autre part, les juristes internationalistes, eux aussi, ont choisi de ne pas s'occuper de la forme politique de l'Union, notamment lorsqu'ils sont spécialistes des organisations internationales, puisqu'ils vont soit exclure l'Union européenne de leur champ, en raison de ses spécificités, mais sans tenter ensuite de la situer dans l'ordre institutionnel international, soit au contraire, ils vont décider de l'inclure comme l'exemple par excellence d'une organisation internationale, sans égard pour les autres organisations régionales, dont les particularités régionales et donc communes à toutes ces organisations, ne sont pas du tout sur leur radar, comme je l'ai rappelé la semaine dernière. Alors mon argument ce matin se dépliera après cette longue introduction, mais qui vous a, je l'espère, donné une idée de mon programme, se dépliera en deux temps qui constitueront les deux parties de la leçon. Dans une première partie, je dévoilerai les rapports intenses qui lient le projet d'intégration de l'Union et l'Empire depuis les origines et les privilèges institutionnels internationaux que son amnésie impériale lui a permis de s'octroyer à elle-même et à ses États membres. Et dans la deuxième partie de la leçon, je me pencherai sur ce que j'ai appelé les heurts et les malheurs de la question fédérale dans l'Union européenne, qui n'a pas encore pu dégager tout son potentiel. Et je vous expliquerai ce qu'une réinstitution proprement confédérale de l'Union pourrait modifier de manière vraiment heureuse à ses rapports à ses États membres et dans ses relations extérieures avec d'autres États ou d'autres organisations internationales. Alors deux délimitations s'imposent avant de commencer. Premièrement, je vais laisser la question de la réorganisation de l'ordre institutionnel international en général de côté, puisque la semaine prochaine, dans la dernière et sixième leçon, je vous parlerai de l'organisation des relations entre confédérations régionales, entre elles et les organisations universelles, comme l'Organisation des Nations Unies. Donc ce sera quelque part la cerise sur le gâteau. Et donc je repousse ces questions essentielles du cadre institutionnel de la réinstitution en confédération régionale à la semaine prochaine. Deuxième délimitation, je me concentrerai ici sur la question institutionnelle. Cette question institutionnelle que soulève l'Union européenne en tant qu'organisation régionale d'un nouveau genre, sui generis, en droit international des institutions, et notamment sur sa forme politique. Je laisserai donc de côté, même si c'est difficile de le faire parce que les deux questions sont toujours liées, je laisserai de côté la question de la nature de l'ordre juridique lui-même, et notamment du remplacement du droit international par le droit international de l'Union au sein des États membres, dans les relations entre États membres et dans leurs relations avec des États tiers. En effet, cette question juridique du remplacement du droit international par le droit de l'Union, dans l'Union, est une question qui sera traitée en détail avec toute la virtuosité que demande ce type de question juridique subtile par le professeur Pierre Dargent dans son séminaire la semaine prochaine. Et dernière remarque, terminologique, cette fois-ci. Comme je l'ai déjà expliqué la semaine dernière, et comme vous l'avez entendu en fait ce matin déjà mille fois, je préfère le terme « confédération » à celui de « fédération » parce qu'il était utilisé pour désigner une forme politique distincte en Suisse, par exemple, ou aux États-Unis, bien avant que ces confédérations d'États ne deviennent des États fédéraux. Mais comme Olivier Beau, dans sa théorie de la fédération, dont vous avez ici les références à l'écran, je considère la confédération comme une forme politique fédérale distincte qui n'est ni un État ni une organisation internationale. J'aborde donc la confédération régionale comme une troisième forme politique et institution distincte qui relève tant du droit interne à la confédération, en l'occurrence le droit du pacte confédéral de l'Union à venir, que du droit international des institutions. Je ne choisis donc pas le terme « confédération » pour faire référence à l'opposition habituelle entre État fédéral et confédération d'État, et donc à l'opposition habituelle entre droit national et droit international. C'est vraiment la combinaison des deux qui m'intéresse dans cette forme politique distincte. Alors je commence avec mon premier point, l'intégration européenne et l'Empire. Dans cette première partie de la leçon, j'aimerais dévoiler les rapports intenses qui lient le projet d'intégration européenne et l'Empire depuis les origines, mais aussi les privilèges institutionnels que son amnésie impériale, à partir de sa création, lui a permis de s'octroyer, aussi bien à elle-même, en tant qu'organisation sui generis, qu'à ses États membres sur le plan international. Et je procéderai en trois temps. Premièrement, je reviendrai sur les origines institutionnelles de l'Union, dont le monde, en principe post-impérial de 1945, pour vous révéler les liens entre l'intégration européenne et l'Empire qui ont largement subsisté. Deuxièmement, j'expliquerai quels sont les privilèges institutionnels que le positionnement sui generis de l'Union lui permet de s'octroyer, dans un monde qui n'est, en principe, un monde que d'organisations internationales. Et enfin, troisièmement, je me tournerai vers le détail des privilèges du positionnement international sui generis de l'Union pour ses États membres, dans un monde qui n'est en principe qu'un monde d'États. Alors je commence avec mon premier point, organiser l'Union européenne contre le nationalisme au sein des États membres et l'impérialisme entre eux, mais au-delà, point d'interrogation. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière, l'État s'est construit en et par le droit international public moderne contre l'Empire. Il a progressivement remplacé l'Empire comme seule forme politique entre les 18e et le 20e siècle. L'Empire, en tant que forme politique reconnue par le droit des siècles précédents, se comprenait en effet comme une entité politique composée d'un centre et de périphérie, et surtout par la domination du centre sur les périphéries, et donc par l'inégalité des peuples institués en son sein et de leurs citoyens. Remplacé par l'État dans toutes ses dimensions dès le XVIIIe siècle, l'Empire disparaît progressivement comme forme politique reconnue par le droit international dans les deux siècles qui vont suivre, jusqu'à en être définitivement écarté au XXe siècle, au moment de la réinstitution de l'ordre institutionnel international par l'ONU, et je vous l'ai déjà dit, la Charte des Nations Unies scelle le glas de l'Empire puisqu'elle consacre l'égalité souveraine des États. Des États qui sont institués d'emblée au pluriel, alors que l'Empire était au singulier, et qui sont institués d'emblée en égaux, contre toute forme de domination. En suivant Hannah Arendt, toutefois, et comme je l'ai fait jusqu'ici, je pense qu'il est utile de distinguer l'Empire de l'impérialisme. Et donc, une forme politique juridique, l'Empire, qui est aujourd'hui dépassé, qui est devenu historique, de politique impérialiste, encore très actuelle, de domination, d'expansion et de conquête. Si la forme politique de l'Empire n'est plus en droit international public contemporain, l'impérialisme, bien sûr, peut encore se retrouver dans les politiques des États et des organisations internationales. C'est le cas des politiques régionales impérialistes d'États que j'ai qualifiées d'États-empires ou d'organisations régionales que j'ai qualifiées tout à l'heure d'organisations-empires. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'objecte à l'usage du terme « empire » pour parler de l'Union européenne aujourd'hui. Ce terme, cette forme politique, n'existe plus en droit international. Et je me distancie en cela de la référence à un empire européen, même si c'est pour qualifier ensuite les visées anti-impérialistes ou post-impérialistes de cet soi-disant empire européen, pour citer Manuel Barroso ou plus récemment Timothy Garton Ash. En revanche, l'impérialisme, pour faire référence à des politiques impérialistes, l'impérialisme de l'Union existe. Et comme je vais l'expliquer dans un instant, l'idée même que l'Union européenne se soit construite entièrement sur un modèle anti-impérialiste est totalement erronée. Certes, l'Union européenne a contribué à la consolidation de l'État contre l'Empire, dans l'ordre institutionnel d'après-guerre. Et il faut donc rendre à César ce qui est à César. Certains parlent même, je l'ai dit, de l'Union européenne comme d'un microcosme international de droit international. Et c'est à juste titre que l'on parle si bien de la contribution de l'Union européenne à la consolidation de l'État contre l'Empire dans cet ordre institutionnel international d'après-guerre. Les premières communautés économiques européennes des années 50, devenues progressivement l'Union européenne entre 1991 et 2009, ont en effet été établies dans le sillage anti-impérialiste du droit international de l'État. On peut même lire parfois que le droit de l'Union européenne est une forme très avancée de droit international sur ce point. On lit parfois que le droit de l'Union européenne est un droit qui a sauvé chaque État membre de lui-même, selon le titre de l'ouvrage désormais célèbre d'Alan Millward, que vous avez ici à l'écran. Le droit de l'Union européenne serait en bref un droit qui a permis de domestiquer l'État en Europe. Et ce, sur deux plans. Sur le plan interne à chaque État membre de l'Union et sur le plan externe des relations entre États membres de l'Union. Premièrement, sur le plan interne de l'organisation de chaque État membre de l'Union, le droit de l'Union européenne a effectivement permis d'ajouter des contraintes égalitaires, notamment constitutionnelles et démocratiques, et de renforcer par là le respect tant de l'égalité politique des peuples européens que de l'égalité de la personne humaine protégée par la Charte des Nations Unies. On parle, pour parler de ces contraintes égalitaires qu'apporte le droit de l'Union à l'organisation interne de l'État, on parle parfois, à juste titre, de protection contre le nationalisme au sein de chaque État réinstitué en État membre de l'Union. Mais deuxième contribution de l'Union européenne à l'ordre international de l'État, à l'ordre anti-impérial de l'État, eh bien l'Union européenne a permis aussi d'ajouter des contraintes égalitaires sur le plan externe. En contraignant les relations entre États membres, qui doivent respecter l'égalité souveraine de chaque autre État membre et renforcer par là le respect de l'égalité politique des États protégés par la Charte. Et on parle ici parfois de protection contre l'impérialisme interne à l'Union, puisque les relations entre États membres de l'Union doivent se dérouler de manière égalitaire. Mais malgré cet agenda résolument internationaliste de l'Union européenne en faveur de la protection de l'égalité souveraine des États contre l'Empire, et notamment dans sa lutte contre le nationalisme et l'impérialisme au sein des États membres et entre eux, il n'en demeure pas moins que l'Union européenne ne s'est pas elle-même construite institutionnellement contre l'Empire à l'extérieur. Elle ne s'est pas construite elle-même comme une forme politique anti-impérialiste. Et ce, alors même que de nombreux États membres étaient des anciens empires, dont les intérêts politiques impérialistes avaient été frustrés durant l'entre-deux-guerres, puis par la Deuxième Guerre mondiale. Mais surtout, ces anciens empires européens réinstitués en États membres de l'Union ont très rapidement repris toutes leurs politiques impérialistes d'avant-guerre, sous couvert de l'Union, à l'ombre de l'Union. Une autre raison d'être surprise du manque de construction anti-impérialiste de l'Union tient à la concurrence des États-empires en dehors de l'Union. Certains de ces États-empires avaient d'ailleurs exercé leur pouvoir impérial sur les États membres de l'Union avant qu'ils ne deviennent des États membres de l'Union. Et donc, une autre raison d'être surprise du manque de construction anti-impérialiste de l'Union tient à la poursuite de leur impérialisme, tant politique qu'économique, contre laquelle l'Union s'est pourtant construite dès les années 50. Et je pense ici aux États-Unis et à l'URSS, bien entendu. D'ailleurs, cette question de la construction européenne manquée contre l'Empire à l'extérieur n'est que peu traitée dans la littérature, et je l'ai déjà dit tout à l'heure en faisant référence à l'article de Signe Relling-Larsen, le traitement de l'intégration européenne se caractérise souvent par une amnésie totale sur le passé impérial des États fondateurs de l'Union et une amnésie totale sur le présent impérialiste des autres États-empires qui l'entourent. Le discours des européanistes est résolument tourné vers l'intérieur de l'Union, vers son intégration d'une part. Le discours des européanistes d'autre part, est résolument tourné vers l'avenir et vers la contribution de l'Union à cet avenir. Le monde extérieur à l'Union, y compris le passé colonial de ce monde extérieur, est rarement pris en compte dans la justification de la construction européenne, et ce au profit d'une attention toute auto-centrée et introspective sur les relations entre États membres ou entre l'Union et ses États membres. Et lorsque les relations des États membres ou de l'Union aux États tiers est prise en compte dans le cadre de ce qu'on appelle le droit des relations extérieures de l'Union, c'est en fait toujours en lien avec les relations intérieures à l'Union, et notamment la fameuse question de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres. Cette amnésie sur le passé impérial de l'Europe est d'autant plus regrettable que de nombreux privilèges impérialistes, soit de l'Union, soit des États membres de l'Union, ont été introduits puis entretenus grâce au positionnement sui generis de l'Union européenne dans l'ordre institutionnel international avec lequel j'ai commencé mon cours d'aujourd'hui. Ni État, ni organisation internationale, mais ni empire, ni surtout anti-empire, l'Union européenne s'abrite derrière l'absence d'institutionnalisation commune et égalitaire des organisations régionales en droit international, dont elle est pourtant la première à profiter. C'est d'ailleurs ce dédain de l'égalité des autres organisations régionales que l'on peut déceler dans la description de l'Union européenne par la Cour de justice comme un nouvel ordre qui ne relèverait même plus du droit international et n'aurait donc pas à trouver sa place dans l'ordre institutionnel international. Alors ceci m'amène à mes deux points suivants. D'abord, les privilèges de l'Union et ensuite ceux des États membres dans un ordre international qui ne compte, je vous l'ai dit malheureusement, que deux formes et deux institutions, l'État et l'organisation internationale. Donc, deuxième point, situer l'Union européenne dans un ordre international d'organisation internationale, les privilèges de l'Union européenne. Une nouvelle fois, il semblerait que l'Europe impose son avance régionale au reste du monde. Les empires et puissances européennes l'ont fait une première fois sur le plan juridique, je l'ai rappelé tout à l'heure, en universalisant par la contrainte le droit public européen. Mais désormais, c'est l'Union européenne qui le fait à leur place et sur le plan institutionnel, puisque l'Union européenne se donne sur le plan international des privilèges en tant qu'organisation régionale très intégrée et autonome, mais autoproclamée comme nouvelle, et donc non instituée à égalité avec celle des autres. En fait, l'Union européenne se positionne comme si elle était la seule organisation régionale au monde garante de l'ordre international universel, mais sans avoir à instituer son organisation à égalité avec celle des peuples des autres régions et avec celle des autres organisations régionales qui devraient pourtant devoir participer avec elle à cet ordre qui est désormais, soi-disant, universalisé. Alors les privilèges que ce statut politique nouveau et propre, autoproclamé, lui permet de s'arroger, se retrouvent à deux niveaux de l'action extérieure de l'Union. Au niveau de l'action extérieure de l'Union elle-même et au niveau de l'action extérieure des États membres de l'Union. Alors je commence avec les premiers, ce sera ici mon deuxième point. Je vous ai montré tout à l'heure cet article 3.5, repris en partie à l'article 21.1 et 3. Je vous laisse ici le 3.5. Parce que cet article vous montre comment l'Union européenne se donne un mandat, non seulement de respect, mais aussi de développement du droit international. Et ce mandat qu'elle se donne lui permet d'être très active sur le plan international. Et c'est grâce à ce mandat qu'elle peut peser de tout son poids et beaucoup plus que toute autre organisation régionale sur l'adoption du droit international universel. Et cela passe, nous allons le voir, par des procédures officielles et pas simplement, comme on le lit parfois dans la littérature, par la force de son marché. Ce n'est pas simplement parce qu'elle réglemente son économie, par exemple son économie de l'intelligence artificielle ou son économie des données, qu'elle va pouvoir contribuer au développement du droit international. Donc, ce qui va m'intéresser ici, ce n'est pas ce qu'on appelle vulgairement le Brussels effect, l'effet de sa propre réglementation du marché à l'extérieur. Ce qui va m'intéresser, c'est vraiment une participation officielle aux procédures d'adoption du droit international universel par l'Union européenne. Et c'est le cas, par exemple, et ce sera mon premier exemple, au sein de la Commission du droit international des Nations Unies. Alors, on a déjà beaucoup parlé de cette commission. Cette commission, c'est une commission d'experts indépendants des Nations Unies, dont je vous ai parlé lors de la deuxième leçon, qui a aussi été évoquée dans le séminaire, qui est une commission qui a pour mandat la codification et le développement du droit international universel. Depuis des années, l'Union européenne intervient dans presque tous les objets de codification de la Commission du droit international. Elle le fait en déposant des notes, des rapports, à chaque fois que la Commission du droit international demande des informations aux États sur l'état du droit international sur un point donné. L'état du droit international sur la question des sources du droit international, l'état du droit international sur la question de la responsabilité, l'état du droit international sur le problème de l'élévation du niveau de la mer, etc., etc. Et lorsqu'elle le fait, l'Union européenne le fait en son nom propre, parfois en se présentant comme une fameuse OIER, donc une organisation d'intégration économique régionale, mais c'est la seule du genre, soit elle se présente comme elle-même, sans référence aucune à sa forme politique et institutionnelle, puisqu'après tout, je vous le rappelle, elle est sui generis. Alors, cette indétermination quant à sa forme politique et institutionnelle, alors qu'elle intervient dans une procédure interétatique d'adoption du droit international, a évidemment causé beaucoup de remous à la Commission du droit international. Et ces incertitudes vont se retrouver dans chacun des rapports et projets de codification. Vous pouvez aller les regarder et chaque fois vous verrez qu'on a un petit problème sur la manière de saisir l'information qui a été fournie par l'Union européenne. Selon les cas, et c'est tout à fait passionnant, la Commission du droit international va se référer à l'Union européenne comme une organisation d'intégration régionale, ou une organisation régionale tout court. Ou alors comme une organisation internationale tout court. Ou encore comme à une communauté d'États. Ou encore, et ça c'est vraiment un délice, un grand État fédéral. Hein ? Donc vous voyez qu'on passe vraiment du tout au tout en termes de référence à sa forme politique. Cette indétermination quant à la forme politique de l'Union ne favorise évidemment pas une prise en compte transparente du droit international régional de l'Union. À quel titre faudrait-il prendre en compte la pratique du droit international universel de l'Union ? Doit-elle avoir lieu au titre d'une OI ou d'un État ? Dans le premier cas, pour représenter la pratique de ses États membres ou la sienne ? Et dans ce dernier cas, la pratique de qui s'agit-il exactement sur un plan politique ? Qu'est-ce que l'Union européenne, finalement ? Le manque de transparence sur le fondement de la prise en compte de la pratique régionale du droit international de l'Union soulève aussi des questions d'égalité de traitement par rapport aux autres organisations régionales. Ces dernières ne participent pas à égalité aux procédures de la Commission du droit international. J'ai traité de ces inégalités de représentation des régions et civilisations dans l'adoption du droit international universel dans la deuxième leçon, et je vous ai proposé diverses solutions. Ce qui m'intéresse ici, c'est que contrairement à la majorité des auteurs, il me semble que ce qui pose problème dans la participation de l'Union européenne aux travaux de la CDI ne tient pas tant à la spécialité de son droit régional, voire à son exceptionnalisme au fond et dans son contenu. Il y a évidemment plein de spécialités, et nous en parlerons dans le séminaire de Pierre Dargent. Mais je pense que ce qui pose problème dans la participation de l'Union européenne aux travaux de la CDI tient en fait à l'indétermination institutionnelle de l'Union européenne et à son exceptionnalisme sur sa forme politique. Il ne sert à rien de rechercher une solution sur le contenu de son droit, sous la forme de lex specialis ou d'autres accommodements, comme on l'a discuté en marge du projet d'article sur la responsabilité des organisations internationales de 2011. Il ne sert à rien de faire tout cela tant que la question de sa forme politique et de son statut de droit international égal à celui des autres organisations régionales ne sera pas réglée. Et dans tous les cas, ce n'est pas à la Commission du droit international de déterminer ce statut ou cette forme politique, mais bien au peuple des États membres de l'Union européenne. Il s'agit de déterminer pour qui l'Union européenne et éventuellement les autres organisations régionales participeraient à l'élaboration du droit international universel. Et cela soulève la question de leur forme politique, si ces organisations ne sont pas des États, et cela soulève la question d'articuler leur souveraineté et représentation à celle des peuples de leurs États membres. Deuxième exemple que l'on peut donner des privilèges impérialistes que s'octroie l'Union européenne au sein des procédures d'adoption du droit international universel, celui de la participation de l'Union à l'Assemblée générale des Nations unies. L'Union y bénéficie en effet d'un statut d'observateur spécial. Ce statut, négocié et renégocié de dure lutte, lui est propre et il traite l'Union européenne beaucoup mieux que d'autres organisations régionales. Surtout, l'Union européenne cherche depuis longtemps à le généraliser à d'autres agences et d'autres institutions spécialisées de l'ONU où elle n'est pas aussi bien traitée, comme l'UNESCO ou l'Agence internationale de l'énergie atomique. Parfois, l'Union européenne est parvenue à devenir membre à part entière de ces institutions, comme c'est le cas de l'Organisation sur l'alimentation et l'agriculture. Mais tout cela soulève à nouveau la question de l'inégalité de traitement en raison du statut sui generis autoproclamé de l'Union par rapport à d'autres organisations régionales et à d'autres groupes régionaux au sein des Nations unies. Et certaines organisations régionales contestent d'ailleurs régulièrement le privilège de l'Union. C'est le cas de la CARICOM, notamment. Mais à nouveau, rien dans la présentation de l'Union européenne au sein de cette enceinte universelle ne fait référence à un statut partagé à égalité par d'autres organisations régionales. Il ne suffit pas de dire que l'Union ouvrirait indirectement le chemin à des revendications similaires des autres organisations régionales pour la dédouaner. Troisième point, les privilèges des États membres de l'Union européenne dans un ordre international d'État. Les privilèges que le statut politique nouveau, sui generis, autoproclamé de l'Union, lui permet de s'arroger, se retrouvent aussi à un deuxième niveau de son action extérieure, celui de ses États membres. Donc, ce sont des privilèges qui vont s'appliquer aux États membres lorsqu'ils agissent dans des relations avec des États tiers ou d'autres organisations internationales. L'organisation institutionnelle autonome de l'Union a aussi permis, en effet, aux États membres les plus puissants de l'Union, souvent des anciens empires européens, comme la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni avant le Brexit, de continuer à peser de tout leur poids sur l'adoption du droit international après la création de l'Union européenne, au travers de l'Union européenne. En cela, l'Union européenne et ses États membres ne se comportent pas très différemment d'autres États-empires, comme les États-Unis, la Russie ou la Chine, ou surtout d'autres États-empires qui, à l'ombre d'organisations-empires, vont assouvir leur velléité impérialiste en toute discrétion. Après tout, nous critiquons souvent les États-Unis qui se cachent derrière l'OTAN pour assouvir ses velléités impérialistes, notamment aux Nations Unies. Qui n'a pas déjà mentionné la Chine et son instrumentalisation de la SCO pour assouvir ses velléités impérialistes? Qui n'a pas déjà critiqué la Russie qui utilise l'organisation Empire de l'Union économique eurasiatique pour assouvir ses velléités impérialistes? Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les États membres de l'Union européenne font exactement la même chose. Et on retrouve les deux poids, deux mesures dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, et j'avais déjà cité ici l'article d'Anne Horford de 2021, dans lequel elle dénonce ce deux poids, deux mesures. Donc ce que font les autres, c'est impérialiste c'est totalement à dénoncer. En revanche, ce que nous faisons, nous, alors évidemment, c'est totalement autorisé, il n'y a rien à voir. Alors, il me semble que c'est par le biais de ce mécanisme de l'organisation de l'Union européenne, cette organisation sui generis, que certains États-puissances européennes, à travers, ou plutôt à l'ombre de l'Union européenne, en tant qu'État membre de l'Union européenne, donc sous ce voile institutionnel, ont pu continuer à assouvir les politiques impérialistes qu'ils avaient avant la guerre, après 1945. Pensez par exemple au projet néocolonial d'Eurafrique, qui a été développé très vite par ces États membres de l'Union européenne, anciens empires européens, pour continuer à nourrir leurs relations avec leurs relations d'extraction avec le continent africain et les États nouvellement créés dans le continent africain. D'ailleurs, ce projet principalement néocolonial d'Eurafrique accouchera plus tard de manière beaucoup plus diplomatique de ce qu'on appellera une politique de coopération et de développement de l'Union européenne en Afrique. Mais personne n'est dupe. Tout le monde sait, notamment grâce, en tout cas pour les juristes, grâce à l'ouvrage de Sundia Pahuja que vous avez ici à l'écran, tout le monde sait qu'une politique de développement, y compris une politique de développement technoscientifique, n'est souvent que la poursuite d'une politique de civilisation néocoloniale sous un autre nom. Et l'on voit bien que le passé impérialiste des États membres de l'Union ne passe pas. C'est un passé qui ne passe pas lorsqu'on regarde l'Union européenne de l'Afrique et qui bénéficie au contraire de l'indétermination institutionnelle de l'Union européenne pour se poursuivre à l'ombre de l'organisation. Les demandes de réparation qui pleuvent désormais pour la colonisation pré-Union européenne et pour la colonisation et pour la poursuite de ces politiques colonisatrices sous couvert de l'Union européenne vont amener, je l'espère, ces États membres à se confronter avec ce passé et, espérons-le, à abandonner leurs privilèges impérialistes dans leurs relations avec les États tiers. Non seulement l'Union européenne n'a-t-elle pas été instituée négativement contre l'Empire au dehors, ce qui aura été ma critique dans cette première partie de la leçon, mais confortablement engoncée dans le statut autoproclamé de membres de l'institution sui generis de l'Union, ces États membres n'ont pas non plus fait le choix d'une forme politique concurrente à l'Empire pour instituer positivement l'Union européenne sur le plan régional Et cette forme politique qu'ils auraient pu choisir, c'est celle de la confédération régionale, et ceci m'amène au point suivant. Les heures et malheurs de la question fédérale dans l'Union européenne. Si l'État a été pensé puis institué en droit international comme la forme politique qui permet l'institution des peuples en plusieurs États égaux contre la domination d'un seul empire, le temps est venu de penser et d'instituer une nouvelle institution et une forme politique supplémentaire de ces mêmes peuples contre l'empire. Cette fois, ce sont les organisations régionales, donc la deuxième couche de l'Union des peuples, qu'il faut instituer autour des États de ces peuples pour mieux protéger l'égalité souveraine des États et des peuples, de ces États qui sont menacés à l'échelle régionale par des politiques impérialistes d'États-empires régionaux ou d'organisations-empires régionaux. Et il existe, je l'ai dit, une forme politique qui est aujourd'hui malheureusement abandonnée par le droit international, mais qui instituait autrefois l'espace géopolitique régional autour des peuples et de leurs institutions, et ce bien avant l'émergence des premiers États. Et cette forme politique régionale, ça n'était pas l'Empire. Cette forme politique régionale, c'était la Confédération. Et c'est pour cela que j'ai considéré la semaine dernière que la Confédération régionale se prête très bien à réinstituer les ordres régionaux et à renforcer la protection de l'égalité des peuples qui n'est pas suffisamment protégée aujourd'hui par les États. On le voit bien, les États ne protègent pas suffisamment l'égalité politique de leur peuple. Alors, face à la non-institution de l'Union contre l'Empire à l'extérieur, que je vous ai montré tout à l'heure, et les conséquences problématiques que cela a posées pour la poursuite des politiques impérialistes des États membres de l'Union, pour les nouvelles politiques impérialistes de l'Union européenne elle-même, j'aimerais proposer un argument pour la réinstitution positive et égalitaire de l'Union européenne en confédération régionale. Alors, je vais procéder en trois temps. D'abord, j'aimerais vous expliquer comment la question de la forme politique fédérale dans l'Union a malheureusement très vite été désamorcée et comment le fédéralisme est devenu une question de pure organisation interne de l'Union, malheureusement. Et donc, il a perdu, en fait, toute sa force. Deuxièmement, je vous présenterai les formes que ce fédéralisme d'organisation interne à l'Union a prises et notamment sa forme d'organisation du marché. Et enfin, je présenterai les effets d'une éventuelle réinstitution confédérale de l'Union pour la protection contre l'impérialisme entre États membres à l'intérieur de l'Union, ce qui est quelque chose d'assez urgent, mais aussi contre l'impérialisme par et contre ses États membres à l'extérieur de l'Union. Alors, premier point, la question de la forme politique fédérale désamorcée très vite par l'opposition entre étatisme et internationalisme. La Confédération, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, c'est cette troisième forme politique qui n'existe plus en droit international, mais qui instituait autrefois l'espace géopolitique régional autour des peuples et de leurs institutions, bien avant l'émergence des premiers États. Cette forme politique, elle est très intéressante pour nous dans la discussion sur l'Union européenne, parce qu'elle s'oppose depuis toujours à l'Empire comme forme politique régionale. Elle permet au peuple d'une région de s'instituer contre l'Empire, mais de manière régionale, soit à des fins de défense commune, soit à des fins de prospérité commune, face à un empire ou à une politique impérialiste extérieure, militaire ou économique. Comme l'Empire, la Confédération est une forme politique d'ampleur régionale, dans la mesure où c'est une entité politique ternaire instituée qui comprend un centre et des périphéries, la Confédération au centre, les États confédérés en périphérie, sans pour autant créer un nouvel État. Et comme l'Empire, la Confédération peut rassembler des États qui restent assez hétérogènes, et comme lui, elle peut maintenir une multiplicité de liens de citoyenneté entre ces États et leurs populations respectives. Mais contrairement à l'Empire, la Confédération garantit et protège l'égalité souveraine des États fédérés d'une part, et les droits égaux des citoyens des États fédérés d'autre part. Et c'est cette double garantie de l'égalité politique dans chaque État fédéré et entre États fédérés qui va de pair avec un régime démocratique tant au niveau confédéral qu'au sein des États fédéraux. Par extension, ce régime politique en commun de la Confédération et des États fédéraux va donc exiger une plus grande homogénéité politique au sein de la Confédération, donnant lieu à un effet de domestication et de démocratisation mutuelle entre la Confédération et les États confédérés. Alors, à première vue, la proposition d'aborder l'Union européenne comme une confédération régionale paraît particulièrement pertinente. Et ce, non seulement, je l'ai dit, en raison de la menace des États-empires, des organisations-empires qui pèsent sur l'Union européenne comme sur toutes les organisations régionales et leurs États depuis toujours et aujourd'hui encore, mais aussi parce que l'emprise de l'imaginaire fédéraliste et des théories fédéralistes lors de la fondation de l'Union européenne dans les années 50 a toujours été très grand. Et vous connaissez tous, évidemment, ce discours de Winston Churchill à Zurich en 1946. L'idée d'États-Unis d'Europe, et plus généralement on pourrait dire l'idée d'un fédéralisme européen, a des racines très profondes dans la pensée de l'Europe comme un projet fédéral. Je ne vais pas pouvoir retracer tout ça ici, mais on pensera par exemple à la Fédération d'États libres de Kant, à la République fédérative de Montesquieu ou de Tocqueville. Et certains d'entre vous, en m'écoutant ce matin, se sont peut-être déjà dit qu'il allait s'agir d'anticiper la transposition de toutes ces théories fédéralistes de l'Union aux autres organisations régionales. Et c'est d'habitude le sens que prend le discours. On va réveiller le fédéralisme dans l'Union, donc on va réinstituer confédéralement l'Union, puis ensuite on va transposer ça aux autres organisations régionales. Mais ça n'est pas du tout mon programme ici, et je l'ai déjà dit dans mon introduction. En effet, la forme de fédéralisme d'organisation qui est souvent attribuée à l'Union et qui est prise dès lors à tort comme un modèle pour les autres organisations régionales ne correspond pas du tout à une forme politique à part entière, comme il faut l'entendre ici par confédération régionale. Et des auteurs comme Olivier Beau, à nouveau, mais surtout Signe Relling-Larsen, dans les deux ouvrages que vous avez ici à l'écran, l'ont démontré très bien, et je vous y renvoie pour le détail. En fait, face au choix entre empire et confédération à des fins d'organisation régionale, l'Union européenne n'a finalement pas choisi de s'instituer contre l'empire, et elle n'a finalement pas choisi la forme politique fédérale pour elle-même contre l'empire. Et ce, alors que la forme de l'Empire était pourtant celle de ses États membres les plus puissants avant 1945, États pour lesquels elle s'est construite à l'intérieur d'une part. Et surtout, alors que la forme de l'Empire était aussi celle des empires devenus États-empires économiques et militaires contre lesquels elle s'est construite à l'extérieur, comme les USA ou l'URSS qui devient la Russie d'autre part. Alors certes, le droit de l'Union a permis de limiter la souveraineté de ses États membres de l'intérieur pour protéger, je l'ai dit, celle des peuples de ces États contre le nationalisme et l'impérialisme entre États membres. Et ce, en imposant toutes sortes de contraintes égalitaires supplémentaires qui sont véritablement superbes. Mais l'Union européenne n'a en aucun cas été instituée de manière à remettre en cause la forme politique étatique de ses États membres de l'extérieur. Elle n'a pas été instituée pour dédoubler la forme politique étatique de ses États membres d'une deuxième forme politique destinée à réinstituer ses États membres en États confédéraux et à assurer par là une protection institutionnelle supplémentaire de l'égalité souveraine de leur peuple. En cela, malheureusement, il faut conclure que l'Union européenne est restée fidèle à l'opposition entre étatisme et internationalisme et entre États et organisations internationales, du droit international, les institutions. C'est en cela qu'elle a permis de renvoyer l'État fédéral à la Confédération d'États dos à dos, traitant l'un comme une institution de droit national et l'autre comme une institution du droit international et en se frottant les mains entre les deux. Sachant que les États membres n'étaient pas et ne sont pas prêts à faire de l'Union européenne un nouvel État, et encore moins à envisager l'institution d'une troisième forme politique confédérale distincte de l'Union européenne, l'Union européenne est demeurée tout au plus une organisation internationale en droit international des institutions, et plus exactement cette fameuse institution sui generis dont je vous ai déjà parlé. Ce manque d'institution confédérale de l'Union comme une forme politique contre la forme politique de l'Empire est d'autant plus regrettable qu'elle a relégué le fédéralisme à une forme d'organisation interne de l'Union, une forme d'organisation interne totalement indépendante de la détermination de sa forme politique. C'est ce qui explique aujourd'hui que cette forme d'organisation fédérale interne soit demeurée profondément indéterminée ou tout au plus économique, comme je vais l'expliquer dans ma deuxième section. En renonçant à instituer l'Union contre la forme politique impériale et donc comme une troisième forme politique confédérale, les États membres, puis l'Union par ses institutions dans la Cour de justice de l'Union, ont relégué le fédéralisme à une forme d'organisation interne de l'Union. Rattaché à une institution décrétée nouvelle et sans forme politique reconnue, le fédéralisme a été réduit à une forme d'organisation interne d'une forme politique indéterminée. En cela, rien de très différent, malheureusement, de ce qui est arrivé au fédéralisme au sein des États. Le fédéralisme au sein des États, comme je l'ai rappelé la semaine dernière, est lui aussi très vite devenu une forme d'organisation politique de l'État, voire même, diraient certains, une forme de régime politique de l'État, plutôt qu'une forme politique à part entière. Et c'est ce qui explique que depuis lors, les efforts, y compris des spécialistes du droit de l'Union, se soient concentrés en droit de l'Union sur les principes fédéraux potentiellement applicables, soit à l'organisation interne à l'Union, et notamment à la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres, soit à son régime, et notamment à la question du bon gouvernement et du constitutionnalisme démocratique. De manière générale, je l'ai dit en introduction, beaucoup plus d'attention et de soin a été porté à la question de l'organisation institutionnelle interne de l'Union et à la question de son régime, et donc à des questions constitutionnelles et démocratiques, qu'à la question de la nature et de la forme politique de l'Union, ce qui est finalement assez paradoxal. Mais l'Union européenne n'est pas seule, je l'ai dit, à souffrir de cette relégation du fédéralisme à une forme d'organisation de l'État, puisque l'État lui-même en souffre. Cela reflète ce que j'ai appelé ailleurs l'étatisme méthodologique, qu'on connaît très bien en théorie politique, et qui empêche de remettre en cause la forme politique dans les discussions qui portent sur la légitimité politique. L'État est toujours présumé exister en arrière-fond de tout argument de légitimité politique. Et c'est ainsi, par exemple, qu'en droit de l'Union, le principe de subsidiarité s'est développé, puis a été interprété comme étant au croisement entre le principe économique de subsidiarité comme efficience et le principe fédéral de subsidiarité des compétences développé dans la tradition fédérale de certains États membres, comme l'Allemagne. Un autre exemple de ce fédéralisme d'organisation interne à l'Union est celui des interprétations fédérales de la majorité qualifiée et désormais de la double majorité au Conseil de l'Union, ou encore les propositions pour un bicaméralisme au Parlement européen au moment des débats sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. Mais il y a pire. Une autre direction prise par le fédéralisme d'organisation interne de l'Union aura été celle du fédéralisme économique, devenu fédéralisme de préservation du marché. Ce type de fédéralisme de préservation du marché n'est pas le propre de l'Union, mais il a trouvé un écho très important dans l'ordre constitutionnel, qui est l'ordre constitutionnel du marché de l'Union. En fait, ce fédéralisme de préservation du marché était au cœur du programme néolibéral de Friedrich Hayek, devenu à peu de choses près le modèle de la gouvernance économique internationale d'après-guerre. Et ce modèle a accouché d'un autre modèle très connu, le modèle de la gouvernance dite à niveau multiple, selon lequel la gouvernance des questions économiques serait entièrement centralisée sur le plan international, en l'occurrence régional, celui de l'Union, tandis que les questions sociales relèverait des compétences des États membres et donc de la politique nationale. La raison d'être de ce fédéralisme d'organisation du marché est en fait de dépolitiser la gouvernance économique de l'Union autant que faire se peut et une nouvelle fois d'enlever toute pertinence à la nature de sa forme politique pour la réglementation du marché intérieur. C'est ce qui explique que le fédéralisme économique dans l'Union n'ait jamais été conçu, alors qu'il aurait pu l'être, comme une forme de fédéralisme politique. Mais ça n'est pas perdu. Finalement, ces différents aspects de la séparation de la question fédérale dans l'Union, de celle de la forme politique fédérale de l'Union, ont aussi eu pour effet de laisser ouverte la question de la souveraineté dans l'Union. Et c'est ce qui explique, je pense, les nombreuses tensions qui finissent toujours par se cristalliser autour de la souveraineté de l'Union et qu'on ne peut pas évacuer, qu'on ne peut pas régler uniquement du point de vue de son régime démocratique ou uniquement du point de vue de la séparation des pouvoirs ou de la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres. La souveraineté demande en effet que l'on détermine qui a la compétence de la compétence. Alors c'est d'autant plus regrettable que la souveraineté dans l'Union fonctionne déjà comme une souveraineté interne et externe dispersée, selon le modèle que j'ai défendu la semaine dernière. Cependant, l'Union européenne ne correspond pas, n'a pas encore une forme politique qui permettrait de partager cette souveraineté entre l'Union européenne et ses États membres. Elle n'a pas encore la forme politique confédérale qui va avec son mode dispersé de souveraineté. Nous sommes donc bloqués au milieu du gué. Si les traités de l'Union européenne établissent une répartition relativement claire des pouvoirs ou des compétences entre l'Union et ses États membres, il serait pour le moins inexact d'affirmer que chaque État membre est encore pleinement souverain individuellement, du moins au sens classique du terme. En effet, les États membres ne conservent aucune autorité ultime concentrée, absolue ou illimitée au sens de la conception classique que je vous ai expliquée la semaine dernière. Alors bien sûr, les partisans de la conception classique de la souveraineté vont rétorquer que les États membres conservent le droit individuel de quitter l'Union européenne. C'est ce que garantit l'article 50 du TUE. Et que ces États membres conservent dès lors une autorité ultime. Ils peuvent toujours partir. Et ce droit n'est pas seulement aujourd'hui légalement accordé par les traités de l'Union, mais il a été effectivement exercé, comme l'a récemment illustré le Brexit. Mais cette réponse par ce droit de sortie de l'Union déforme l'argument révisionniste en faveur d'une souveraineté multiple ou dispersée que j'ai défendu la semaine dernière. Il déforme la manière dont cette souveraineté pourrait fonctionner dans une reconstruction fédérale de l'Union. En effet, les États confédérés ont toujours le droit de quitter une fédération. Bien que cela soit généralement interprété comme la reconnaissance de la conservation par ces États de leur autorité ultime, les fédérations sont pourtant elles aussi également décrites comme souveraines. Et la seule façon de donner un sens à cela est de reconnaître que la souveraineté interne de l'État est au moins dans ces cas-là partagée ou dispersée entre la Confédération et les États confédérés et dans le cas de l'Union, entre l'Union et ses États membres. Et j'en veux ici pour preuve l'article 2 du nouveau règlement ACI de 2023, qui est un règlement de l'Union européenne pour lutter contre la coercition économique, qui est un règlement vraiment intéressant parce qu'il justifie potentiellement des contre-mesures économiques de la part de l'Union, ce qui est véritablement très actuel au vu de ce qui s'est passé cette nuit, y compris vraisemblablement en violation du droit international, de la responsabilité internationale. Et si vous lisez ce règlement, vous verrez à l'article 2 qu'il se réfère sans phare, expressément, comme un grand, à la souveraineté et de l'Union et de ses États membres. D'autre part, il serait tout aussi inapproprié de décrire le système institutionnel de l'Union comme étant celui d'un État unitaire souverain, dont l'autorité ultime, concentrée, absolue et illimitée ne résiderait que dans l'Union. En effet, les États membres sont toujours en mesure d'exercer une partie de leur autorité ultime et de fixer des limites à ce que l'Union et ses organes peuvent faire. Et j'en veux pour preuve ici quelque chose dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est le retour du principe de l'égalité souveraine des États dans le traité de Lisbonne à l'article 4.2. Alors, contrairement à Olivier Beau et Signe Relling-Larsen, je ne considère pas qu'il faille choisir entre l'approche confédérale de l'Union et la souveraineté, dont je vous ai montré lors de la dernière leçon qu'elle devait et qu'elle pouvait être décollée conceptuellement et normativement de l'État. Surtout, la souveraineté externe peut être détenue et exercée de manière partagée, ensemble, par les États confédérés réunis en une confédération, comme l'a très bien démontré Hannah Arendt. Alors j'en viens précisément à ce que la réinstitution confédérale de l'Union proposait ici, une réinstitution confédérale qui pourrait enfin faire coller la souveraineté partagée qui est exercée actuellement avec une forme politique adéquate, pourrait changer sur le plan tant intérieur qu'extérieur à l'Union, et ce sera mon troisième point. Si l'État a été pensé puis institué en droit international comme la forme politique qui permet l'institution des peuples en plusieurs États égaux contre l'Empire, il est temps, je l'ai dit, face aux faiblesses de l'État, de penser et d'instituer une institution et forme politique supplémentaire de ces mêmes peuples qui sont toujours menacés, mais cette fois-ci sur le plan régional, par des États-empires ou des organisations-empires. Cette fois, contrairement à 1945, ce sont donc les régions qu'il faudrait instituer par la Confédération régionale autour des États pour mieux protéger l'égalité souveraine des États et de leurs peuples. Mais face à l'absence d'institutions politiques de l'Union contre l'Empire et les conséquences problématiques qu'elle pose pour la protection contre les politiques impérialistes tant de l'Union que de ses États membres, mais aussi contre celles d'autres États et organisations, j'aimerais proposer ici la réinstitution égalitaire de l'Union en confédération régionale. Cela passera par un nouveau pacte confédéral selon des modalités que je vous ai présentées la semaine dernière. Il me semble que cette réinstitution confédérale de l'Union permettrait de parfaire la protection contre l'impérialisme d'abord à l'intérieur de l'Union, notamment dans les relations entre États membres et entre États membres et Union, et ensuite contre l'impérialisme à l'extérieur de l'Union, notamment dans les relations entre l'Union et ses États membres, et entre l'Union et ses États membres et des États tiers ou organisations tierces. Alors premièrement, le plan interne. Il me semble qu'instituer l'égalité des États membres de l'Union en tant qu'État confédéré permettrait de parfaire ce qui a été commencé dans les années 50, c'est-à-dire la protection par le droit de l'Union contre l'impérialisme dans les relations entre États membres et entre États membres et Union européenne. Cette perfection de cette protection interne contre l'impérialisme est particulièrement urgente parce que même si nous souhaitons l'ignorer dans cette partie de l'Europe, les doléances sont aujourd'hui très nombreuses dans une autre partie de l'Europe. D'une part, la garantie nouvelle par le traité de Lisbonne de l'égalité souveraine des États à l'article 4, paragraphe 2, j'en ai parlé tout à l'heure, est le signal, pourrait même-t-on dire, d'une protection insuffisante de l'égalité souveraine des États, à la fois dans les relations entre les États membres les plus puissants, les plus riches, les plus centraux, et les autres, et dans les relations entre l'Union et ses États membres. C'est dans la création d'une union régionale et solidaire d'États confédérés que l'égalité et l'équité de leurs rapports en tant que solidarité confédérale pourraient naître. C'est d'ailleurs ce que confirment les efforts récents qui tentent tous d'appliquer les principes de solidarité et d'équité dans des domaines urgents comme la migration, la protection de l'environnement ou la protection de la santé publique, des efforts qui pour l'instant restent vains, regardez comment le pacte migratoire ou comment le principe de solidarité et d'équité dans la politique environnementale de l'Union reste vain, des efforts qui restent vains à mon avis parce qu'ils ne se soucient pas aussi d'instituer une communauté politique entre les États membres de l'Union. Et c'est cette solidarité par une nouvelle communauté politique qui peut ensuite, à mon avis, faire fonctionner le principe de solidarité et d'équité tout seul, sans intérêt pour la forme politique, il reste vain. D'autre part, outre ces bénéfices de la réinstitution égalitaire des États membres en tant qu'État fédéré pour fonder des obligations de solidarité entre eux, il faut aussi mentionner la domestication mutuelle sur laquelle repose le confédéralisme et notamment l'homogénéisation mutuelle des régimes. Ici, c'est la critique du respect de l'État de droit, ou plutôt du non-respect de l'État de droit, du non-respect de la séparation des pouvoirs, du non-respect de la démocratie par l'Union européenne elle-même, dont j'ai déjà parlé dans mon cours en 2021-2022, qui paraît sous un autre jour. Cette question, en effet, du respect de l'État de droit, de la démocratie, la séparation des pouvoirs par l'Union européenne elle-même, révèle le double standard constitutionnel dans l'Union européenne, selon qu'il s'agit de l'Union européenne et de ses institutions, ou de ses États membres. Et cette question et cette critique légitime du double standard pourrait elle aussi trouver une partie de sa réponse dans la réinstitution de l'Union européenne elle-même en confédération, et donc dans une union politique qui serait enfin fondée sur un vrai droit public européen. En somme, la réinstitution de l'Union en confédération permettrait de parfaire la domestication de ses États membres et la limitation de l'impérialisme entre eux par la mutualisation de ses contraintes constitutionnelles, y compris par leur application à l'Union elle-même. Ceci est d'autant plus urgent pour les États dits de l'Est, dont l'intégration à l'Union européenne s'est faite beaucoup plus tard, suite à la chute du mur et en réaction à l'époque à un autre impérialisme qui s'exerçait sur eux. Deuxièmement, sur le plan externe à l'Union elle-même, il me semble que la réinstitution confédérale de l'Union permettrait aussi d'organiser la protection contre l'impérialisme à l'extérieur de l'Union. Cette protection renforcée par la réinstitution confédérale doit en effet s'exercer à la fois à l'encontre de l'impérialisme des États et organisations tierces et à l'encontre de l'Union et de ses États membres eux-mêmes. Sur la protection confédérale contre l'impérialisme à l'encontre des États et organisations tierces, d'une part, il s'agit d'aborder la réinstitution de l'Union sous l'angle de ce qui lie ses États membres face aux menaces économiques et militaires qui proviennent d'États et d'organisations tierces aux velléités impérialistes. Certaines de ces menaces sont les mêmes que dans les années 50, mais d'autres sont nouvelles, comme l'érosion de l'Alliance transatlantique sur un plan militaire et le projet relancé d'une Europe de la défense. Après le fédéralisme économique de l'Union et sa dimension politique qui a malheureusement été inavouée, ou du moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, reléguée à un fédéralisme apolitique de préservation du marché, il s'agirait donc de réveiller un fédéralisme économique de l'Union comme fédéralisme politique et d'accompagner le fédéralisme de défense à venir de l'Union européenne d'une dimension politique qui, cette fois-ci, serait bien affirmée. Sur la protection confédérale à l'encontre de l'impérialisme de l'Union et de ses États membres eux-mêmes, d'autre part, il s'agit de réinstituer l'Union à égalité avec les autres organisations régionales en droit international et ainsi de respecter l'égalité souveraine de leurs États membres et peuples qui est au fondement de la Charte des Nations Unies. Ici aussi, les doléances sont très nombreuses, et je les ai présentés à la fin de ma première section ce matin. Il s'agit de transformer ce qui est en fait une somme de privilèges de l'Union et des États membres, des privilèges qu'ils se sont octroyés en raison ou sous couvert du statut politique autoproclamé sui generis de l'Union, en véritables droits égaux qui seraient partagés avec toutes les organisations régionales réinstituées elles aussi en confédération régionale. Par ailleurs, de véritables obligations mutuelles de solidarité et d'équité pourraient enfin être partagées par toutes les organisations régionales du monde, parce que fondées sur une nouvelle égalité de statut international entre confédérations régionales. Si vous réfléchissez à la manière dont nous fondons aujourd'hui les obligations de solidarité et d'équité entre États, eh bien vous comprendrez que nous les fondons sur le partage égalitaire de statut, de forme politique étatique dans la Charte des Nations Unies. Depuis 70 ans, nous fondons ces obligations de solidarité et d'équité des États et entre États sur leur statut commun partagé en vertu du droit international et de leur égalité souveraine en droit international. Et nous pourrions faire de même pour les confédérations régionales une fois qu'elles sont réinstituées à égalité. Ces nouvelles obligations de solidarité et d'équité entre confédérations régionales pourraient fournir des arguments vraiment bienvenus dans le débat sur la répartition et la différenciation des obligations entre les différentes organisations régionales du monde dans des domaines à nouveau comme la migration, la lutte contre le dérèglement climatique ou la protection de la santé publique. Pour l'heure, en l'absence de cadre institutionnel commun, qui établissent un statut minimal égal et partagé par les organisations régionales en droit international, chaque organisation, y compris l'Union européenne, y va de ses mesures et politiques au prix de l'égalité et de l'équité, puisqu'elle externalise son droit unilatéral en l'imposant aux autres régions du monde. C'est ce que l'on peut observer avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne ou le pacte migratoire de l'Union. Dans les deux cas, contrairement à tous mes collègues, je ne pense pas qu'il suffise d'invoquer des principes de justice globale, comme l'égalité, la solidarité ou l'équité, pour espérer améliorer les choses. Sans clarté sur la forme politique de l'Union et sa nature institutionnelle partagée dans un ordre institutionnel international égalitaire, et notamment sur la manière dont l'Union européenne réinstitue ses États membres, ces principes très importants de souveraineté, de solidarité, d'égalité, d'équité, ne peuvent pas avoir de prise effective sur la pratique des États et de leurs organisations régionales. Nous restons, malheureusement, toujours en surface. En somme, la réinstitution de l'Union en confédération régionale permettrait peut-être enfin d'organiser la cohérence entre les obligations de droit international de l'Union elle-même, des obligations qui, nous dit-elle, à l'article 3, paragraphe 5, s'appliquent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, tant à ses relations internes qu'à ses relations avec le reste du monde. Cette cohérence, qui est une obligation pour l'Union européenne et qui, pour l'heure, est restée lettre morte. Restée lettre morte, comme tant d'autres choses d'ailleurs qui se sont produites à l'ombre du statut sui generis, autoproclamé de l'Union européenne, et de l'avantage régional que l'Europe, et donc les États européens, les peuples de ces États, en somme nous autres, les Européens, nous octroyons depuis toujours en droit international. Il est temps que le microcosme international de l'Union soit partagé avec les autres organisations régionales et que l'Union européenne devienne enfin une organisation régionale parmi d'autres. La semaine prochaine, nous passerons à la sixième et dernière leçon de ce cours. J'y articulerai différentes propositions pour mieux instituer les régions en droit international et organiser juridiquement ce nouveau niveau géopolitique entre l'État et les organisations universelles que les juristes ont trop longtemps négligé d'organiser de manière égalitaire et à une échelle mondiale. Si j'ai expliqué dans la dernière leçon et celle de ce matin comment le droit international des institutions pourrait s'enrichir d'une troisième institution, la Confédération régionale, j'aimerais dans la prochaine leçon articuler cette nouvelle institution aux deux autres, l'État et l'organisation universelle. Cela devra se faire notamment au sein de l'Organisation des Nations Unies, rebaptisée Organisation des Nations et Régions Unies, au prix de grandes réformes de cette organisation, des réformes dont elle a bien besoin. Ce n'est qu'à la condition de l'institutionnalisation d'un tel ordre au monde des régions que l'égalité de souveraineté des peuples de ces États pourra être effectivement protégée et que la tentation impérialiste de certains États et de leurs organisations régionales au sein de ces régions, dont la nôtre, l'Europe, et vis-à-vis d'autres régions, pourra être jugulée. Mais avant cela, cet après-midi, le séminaire du professeur Nicolas Levrat de l'Université de Genève, qui est aussi rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits des minorités, nous ramènera à la question de ce que la régionalisation fait à l'universalité des droits de l'homme, cette fois-ci au travers d'un prisme très particulier que nous n'avons pas encore abordé, qui est celui de la protection des minorités. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite, comme toujours, un bon appétit parce que le droit international, ça donne faim. Je vous dis à cet après-midi pour le séminaire, si vous pouvez. Et sinon, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.